Famille de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Goethe, premier critique de la bande dessinée. La BD, un art qui aurait débuté 3000 ans avant Jésus-Christ. Les différentes et concurrentes aventures de Pim Pam Poum. Et encore, un parallèle établi entre Bécassine et À la recherche du temps perdu. Francis Lacassin était l'invité de Mina et André Guillois le 22 mars 1972 sur France Culture.
I've been asked by the London County Council to make an announcement about this tuba. As a matter of fact, this is a Stradivarius tuba.
Pour vous, Francis Lacassin, la bande dessinée est plus qu'un nouveau moyen d'expression à l'impact plus fort que celui du cinéma et d'un contact aussi familier et quotidien que la télévision. C'est un art, le neuvième. Vous venez d'ailleurs, sous le titre « Pour un neuvième art, la bande dessinée », de réunir aux éditions 10-18 de très nombreux textes que vous avez écrits depuis une dizaine d'années pour mener une véritable croisade en faveur de la bande dessinée. Celle-ci a d'ailleurs conquis ses lettres de noblesse puisqu'elle est entrée à l'université. L'Institut d'art et d'archéologie de la Sorbonne a inscrit au programme de cette année l'histoire et l'esthétique de la bande dessinée et vous en a confié l'enseignement.
Francis Lacassin, vous présidez depuis 1962 le Club des bandes dessinées, qui a eu comme principal inspirateur le cinéaste Alain Resnais, réalisateur de l'année dernière à Marienbad, de Muriel, de La guerre est finie et d'un court-métrage sur les trésors de la Bibliothèque nationale, Toute la mémoire du monde. Au passage, signalons que ce club a pris le nom plus ambitieux de Centre d'études des littératures d'expression graphique. De quoi s'agit-il exactement ?
Eh bien, c'était une association qui, à l'origine, groupait des nostalgiques de bandes dessinées qu'ils avaient lues dans leur enfance et qui voulait d'abord, d'un point de vue purement égoïste, comme toutes les frustrations, retrouver ces bandes dessinées en se les communiquant, puisqu'il est extrêmement difficile de trouver des journaux tirés à 300 000 exemplaires ayant contenu des bandes dessinées, alors qu'il est très facile de trouver des plaquettes surréalistes tirées à 50 exemplaires. Et de l'impossibilité, si vous voulez, de trouver la bande dessinée dans des musées ou même dans des bibliothèques nationales, de l'impossibilité de réunir des collections vraiment complètes de ces journaux, est venue l'idée de mettre bout à bout les débris de chacun pour constituer des collections qui pouvaient être photocopiées ou reproduites, d'abord, dans un premier temps. Puis on s'est aperçu que c'est une entreprise vaine. Et on a compris qu'il fallait faire une sélection, se débarrasser de ce côté un peu proustien, ce côté Madeleine, et envisager le problème d'un point de vue adulte. Nous avons donc voulu rééditer certaines bandes qui nous paraissaient classiques, qui avaient un certain intérêt thématique et esthétique, de façon à inciter les éditeurs à en faire autant. C'était notre première idée. Dans un deuxième mouvement, nous avons voulu sortir la bande dessinée de cette espèce de ghetto, de mépris, d'ostracisme, de blasphème, littéralement, d'anathème, qui l'emprisonnait. C'est-à-dire que depuis 1949, une loi scélérate avait proscrit un certain nombre de bandes dessinées sous prétexte qu'elles pouvaient porter atteinte au moral de l'enfance. Et un de nos buts était de faire, sinon abroger cette loi, du moins de la faire tomber en désuétude, ce qui est d'ailleurs un but atteint.
Vous-même, Francis Lacassin, vous avez été amené à vous intéresser à la bande dessinée, comment ?
Depuis que j'existe, j'ai d'ailleurs appris à lire tout seul en lisant des bandes dessinées sans m'en apercevoir. J'ai cru plus tard être un prodige et je me suis aperçu que dans le conseil d'administration du club des bandes dessinées, les deux tiers des membres étaient dans mon cas. Mais quand je suis arrivé en classe, je me suis ennuyé pendant une année, pendant que mes camarades en étaient au B.A.B.A., moi je lisais déjà des livres. Grâce à la bande dessinée. C'est la meilleure méthode pour apprendre à lire et pour apprendre une langue étrangère.
Alain Resnais, justement, je crois, était le dernier de sa classe en anglais et il rêvait de recevoir les bandes américaine.
Exactement. Alors Alain René est vraiment un prodige qui, non seulement dans le domaine du cinéma, mais dans le domaine de la connaissance en général, c'est un esprit critique particulièrement lucide, quoique discret. Et il s'est aperçu que c'était complètement stupide que de lire des bandes dessinées en français alors qu'elles étaient d'origine étrangère. Et il a eu envie donc de connaître les origines des planches qu'il aimait. C'était en particulier Guy Leclerc, dont le titre américain était Flash Gordon. Alors il s'est fait passer pour dessinateur, il avait 15 ans, il est allé rencontrer le directeur de l'agence Opéra Mundi, qui est une agence de presse très connue et qui diffuse la plupart des bandes dessinées américaines en France. Et il a demandé à voir des originaux, des reproductions d'originaux. Il s'est aperçu qu'il y avait des trahisons, que le texte des ballons en anglais était très peu étendu et très étendu dans les ballons français, ce qui fait que les ballons français dévoraient une partie du dessin. Et il a compris tout de suite qu'il fallait défendre les versions originales, non seulement dans la bande dessinée, mais au cinéma. Mais déjà, à l'âge de 13 ans, en France, il y avait quelqu'un qui estimait qu'il fallait lire des bandes dessinées en version originale. Et il a donc poussé ses parents non plus à lui acheter des journaux illustrés qui publiaient ses bandes traduites, mais à les acheter à l'américain, c'est-à-dire à commander à l'américaine. Et ses parents étaient très réticents. Et il leur a fait ce marché. Il leur a dit « Je suis le dernier de la classe en anglais, mais je vous promets que je ferai des progrès ». Le résultat a été foudroyant. Effectivement, en 3 mois, il est devenu de dernier premier.
Et qui a été auprès de vous, à part Alain René ?
Il y avait au départ des inconnus, mais peu à peu, toutes sortes de gens se sont rassemblés. Et chose curieuse, la plupart venaient du cinéma, de la télévision, de la photographie, de la peinture. Des gens connus ou inconnus qui s'apercevaient que soudainement, leur carrière dans le domaine de l'image avait été conditionnée par les lectures de bandes dessinées. J'ai rencontré des gens, je pense en particulier à Michel Subiela, producteur du Tribunal de l'Impossible, qui a adapté La Comtesse de Ségur à la télévision, et qui m'a dit, mais ça y est, en revoyant cet exemplaire que vous avez réédité de tel épisode, je me suis aperçu qu'une certaine image qui me hantait, et qui était celle d'un personnage regardant une scène à travers une fenêtre, je l'ai retrouvée dans une bande que vous avez rééditée, et que j'avais lue dans mon enfance, et donc qui m'avait impressionné, et que j'ai reprise malgré moi. Alors il y avait donc des gens comme Michel Subiela, Jean-Christophe Averti, Claude Santelli, Pierre Tchernia, beaucoup de gens de cinéma comme Chris Marker, Alain René, Raymond Forlani qui était scénariste de films et qui fait maintenant des pièces de théâtre. Beaucoup de comédiens comme Sarfati, Jean-Claude Rouault, que sais-je. Beaucoup également de peintres et d'auteurs de bandes dessinées, bien sûr. Toutes sortes de gens influencés par l'image, d'une manière générale.
Et alors, les intellectuels, enfin ceux qu'on appelle les intellectuels, ont longtemps été absolument contre la bande dessinée.
Les intellectuels, à l'époque, étaient tous contre la bande dessinée. Lorsqu'ils se réunissaient pour en parler, c'était pour l'anathématiser. Alors la génération actuelle, d'une part, est née de la bande dessinée, l'a lue dans son enfance, donc n'a pas les préjugés que ses précédentes avaient, ce culte excessif de l'écrit. Alors que nous sommes dans une civilisation de l'image, et elle a une position légèrement différente.
Ce qu'on aurait peut-être dû faire d'abord, c'est de définir ce qu'est la bande dessinée.
Alors écoutez, je crois que peut-être il faut consulter le dictionnaire Larousse, puisque pour la première fois, la grande encyclopédie Larousse, qui va fixer les connaissances pour les 20 prochaines années, contient l'article bande dessinée, et Honneur Insigne m'a demandé de le rédiger. Alors je la résume brièvement, la bande dessinée, c'est un récit à l'image, imprimé sur papier, au contraire du film qui lui est imprimé sur pellicule, et dans lequel l'équilibre doit exister entre l'image et le texte, celui-ci venant en appoint de l'image, étant intégré à celle-ci dans des réserves blanches appelées ballons, qui sont reliées en général à la bouche d'un personnage par ce qu'on appelle une queue.
Vous faites remonter très loin la préhistoire de la bande dessinée, très exactement à certaines pages des livres des morts égyptiens qui datent de quelques 3000 ans avant Jésus-Christ, je crois.
En effet, la jeunesse de la bande dessinée a été extrêmement longue, un peu comme la jeunesse de l'humanité d'ailleurs. C'est souvent des contingences économiques qui dictent l'apparition de certains moyens d'expression, et les conditions économiques n'étaient pas réunies pour que la bande dessinée, moyen de culture de masse, moyen de communication de masse, puisse trouver un support matériel idéal. Pendant des années, le récit en images, si vous voulez, qui est l'ancêtre de la bande dessinée, qui s'est subdivisé en cinéma et bande dessinée, images fixes et images mobiles, a cherché à définir, à trouver un support matériel idéal. Alors ça a été la pierre, le bois, le bronze, le vitrail, le verre, finalement le parchemin est le moyen idéal, le plus facile à utiliser, le plus léger, le plus apte à être conservé, c'était le papier. Alors jusque-là, la bande dessinée a tâtonné, elle a négligé son évolution thématique, son évolution esthétique aussi, afin de trouver le support matériel destiné à supporter, au fond, cette imagination et cette thématique. Et on peut donc considérer que les Égyptiens, avec leurs papyrus et leurs tombeaux funéraires ou leurs constructions funéraires, ont été les grands ancêtres. Il y a eu ensuite les cathédrales, et avant les cathédrales, les frises du Parthénon, par exemple, ou la colonne Trajan à Rome, les vitraux, les chemins de croix même, qui racontaient une histoire, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'invention de l'imprimerie, de la xylographie, a permis d'utiliser les premiers recueils d'images. Et l'image avait déjà son sens, sa mission, qui est celle de la bande dessinée aujourd'hui, c'est-à-dire s'adresser à la masse.
Dans les pionniers, vous citez Hogarth, qui est l'homonyme du fameux dessinateur des aventures de Tarzan, et qui était un peintre anglais du XVIIIe siècle. Il a inauguré ce que son admirateur Topfer appelait la littérature en estampes. De quoi s'agissait-il ?
Eh bien, alors Hogarth cherchait à raconter. C'est le problème de tous les gens qui voulaient faire éclater le cadre de l'image unique, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore compris qu'on pouvait subdiviser une image, fragmenter son contenu en plusieurs cases successives. William Hogarth avait compris qu'une seule image ne suffisait pas. Alors, il avait eu l'idée de faire des estampes à suite, c'est-à-dire de faire des collections de 4 ou 5 estampes, de raconter le mariage à la mode, par exemple, ou les dessous des élections anglaises, en 4 ou 5 estampes. C'est-à-dire 4 ou 5 images séparées, mais se suivant.
Et puis, il y a eu aussi François-Aimé-Louis Dumoulin, un Suisse, qui vers 1805 avait réalisé une adaptation en images de Robinson Crusoe.
Dumoulin avait, si je me souviens bien, 243 images résumées de Robinson Crusoe. C'était parfaitement intelligible et sans texte. C'est en somme la première adaptation d'un roman en bande dessinée et en même temps une esquisse de bande dessinée, parce que ça n'était pas la technique de la bande dessinée, c'était des images qui se suivaient. C'était un découpage de scènes, alors que la bande dessinée est composée d'une série de plans ou d'images appartenant à une même séquence.
Le véritable père de la bande dessinée, c'est Topfer, ce maître d'école suisse.
À tout point de vue, c'est Topfer qui, de 1827 à 1837, en moins de 10 ans, a rédigé 7 ou 8 albums qui avaient le format de la bande dessinée, c'est-à-dire le format de la bande dessinée tel qu'elle apparaît dans les quotidiens, c'est-à-dire de 3 ou 4 images qui se suivent d'albums horizontaux, enfin oblongs. Et donc, il avait rédigé 7 ou 8 histoires en images qui contenaient des récits imaginaires qui étaient destinés à distraire ses élèves. Et ces cahiers calligraphiés ont circulé un peu partout, sont même tombés entre les mains de Goethe, qui a trouvé ça génial, et qui s'est dit, mais pourquoi ne les publie-t-il pas ? Et finalement, Topfer a suivi le conseil de Goethe et les a publiés. On peut dire que Goethe a été le premier critique de bande dessinée.
Et Christophe, le père de la famille Fenouillard, était un grand admirateur de Topfer.
Il s'appelait en réalité Georges Collomb, il était sous-directeur du laboratoire de bord de botanique, il était ancien élève de l'école normale supérieure, professeur de sciences naturelles, et il faisait beaucoup de dessins pour se distraire. Et il avait eu l'idée de faire, dans un journal pour enfants que publiait un de ses éditeurs en 1889, une histoire à l'image un peu inspirée de celle de Topfer, où il représentait, selon le principe de Topfer qui était le voyage, une famille, la famille Fenouillard à travers le monde. C'est le créateur, en quelque sorte, de la bande dessinée française. C'est un journal pour enfants, Le Petit Français Illustré, qui a publié la première bande dessinée typiquement française.
Il était illustré, ce Petit Français, pas tellement.
C'était des romans dans lesquels il y avait une ou deux images. Et il y avait une page entière, une seule, qui était entièrement faite de 10 ou 12 dessins. C'était la planche de la famille Fenouillard. Le succès a été tel que des vocations sont nées et des gens qui se consacraient à faire des images d'Épinal ont eu l'idée de faire des journaux entièrement faits de bandes dessinées et en couleur cette fois. C'est ainsi qu'entre 1903 et 1908, une dizaine de journaux pour enfants sont nés qui étaient entièrement faits de planches de bandes dessinées grâce au succès de la famille Fenouillard.
Vous avez parlé des images d'Épinal. Il faudrait peut-être les situer dans l'histoire de la bande dessinée.
Oui, l'image d'Épinal est apparue à la fin du 18e et au début du 19e. C'était destiné à des gens simples, qui ne savaient pas lire ou qui savaient peu lire. Donc tout était fondé sur l'image. C'était une grande image d'abord, puis accompagnée de deux ou trois petites images, avec assez peu de texte, et qui racontait un épisode, une recette, un fait d'armes, une légende, etc. Et peu à peu, cette image unique accompagnée de deux petites images beaucoup plus petites s'est fractionnée et on a eu des planches d'une douzaine ou d'une quinzaine d'images sous le Second Empire, dans chaque planche formant un récit complet, ou quelquefois deux ou trois planches formaient un récit complet. Et ceci de particulier, c'est qu'il y avait peu de texte, évidemment, mais que le texte était sous l'image, c'était la légende. C'est le contraire de ce qui s'est produit en Amérique. Lorsque la bande dessinée est née, vers 1895, dans des journaux pour adultes, dans les suppléments du dimanche des journaux pour adultes, dans les pages remplies de caricatures. Et dans la caricature anglo-saxonne et américaine, il y avait des ballons, déjà dès le 17e, 18e siècle, on voit apparaître des ballons.
Pour rester dans les pionniers, il y a eu aussi en Allemagne, en 1865, Max und Moritz de William Busch, qui allait inspirer Rudolf Dierks pour ses Katzenjammer Kids qu'on connaît en France sous le nom de Pim Pam Poum.
En effet, c'est Wilhelm Busch a été un peu le pionnier allemand de la bande dessinée. Il a créé un certain nombre de personnages, surtout des personnages de garnement, dont les deux plus célèbres étaient Max et Moritz. Et c'était des planches complètes, avec le texte au-dessous de l'image, mais très réduit, venant à la pointe de l'image, ce qui est la caractéristique même de la bande dessinée, qu'il ne faut pas confondre avec le roman en images, qui est souvent un roman très illustré. Et les images de Wilhelm Busch étaient accompagnées de distiques qui étaient placés sous l'image. Alors ces deux personnages de garnement ont eu un très grand succès en Allemagne et en Amérique, Randolph Hearst, qui était d'origine allemande, a demandé à un jeune dessinateur, et c'était en 1897, d'adapter au goût américain les personnages de Wilhelm Busch. Et ce jeune dessinateur, âgé de 18 ans, a créé les deux personnages des Katzenjammer Kids qui étaient des Allemands transportés dans une colonie africaine. Et c'est devenu la plus célèbre, la première des bandes dessinées américaines. Elle avait été précédée de 12 ou 3 bandes mineures, mais ça a été la grande bande dessinée américaine qui a influencé toute la thématique de l'image américaine pendant une bonne quinzaine d'années. Et cette bande, traduite en français, comme vous le dites, sous le nom de Pim Pam Poum, a paru, et c'est là un record, pendant 71 ans, sous la signature de son créateur qui est mort en 1968. C'est un record. C'est-à-dire que Rudolf Dierks a dessiné jusqu'à l'âge de 89 ans cette bande. Et c'est en même temps la doyenne des bandes dessinées vivantes dans le monde. C'est-à-dire que c'est la plus ancienne bande dessinée qui existe encore, qui évidemment n'est plus dessinée par Dierks puisqu'il est mort en 1968.
C'est d'ailleurs la seule bande au monde qui soit dessinée parallèlement par deux artistes différents.
Après l'avoir dessinée pendant 17 ans, vers 1912, dire que ça en a eu assez. Et il a eu envie de faire de la peinture et de prendre des vacances pendant un an. Et son employeur lui a dit, d'accord, mais prenez de l'avance. C'est-à-dire, il faut que la bande ne s'interrompe pas pendant votre absence. Car le grand principe de la bande dessinée américaine, c'est qu'elle paraît tous les jours. Il y a quatre images qui paraissent tous les jours pendant des années, sans la moindre interruption. Et en plus, souvent, une planche du dimanche qui raconte une histoire différente, non plus en quatre images, mais en 12. Alors, Dierks a cherché à prendre de l'avance, il est parti en Europe, il a envoyé quelques bandes d'Europe, puis il en a eu assez, il a arrêté. Alors, furieux, Hearst, le mania de la presse, qui n'aimait pas qu'on le bafoue, a commis un dessinateur qui s'appelait Kner et lui a ordonné de continuer la bande en imitant le style de Dierks. Et Kner a continué en l'imitant très bien. Alors Dierks n'a pas été content. Il a fait un procès qui a passionné l'Amérique. Toute l'Amérique tremblait pour les Katzi, comme on l'appelle là-bas. On se disait, est-ce que la bande va être supprimée? Et finalement, il y a eu un jugement de Salomon, c'est-à-dire qu'on a considéré que le propriétaire de la bande était Randolph Hearst. et que c'était lui qui avait trouvé le titre Katzenjammer Kids, c'est-à-dire les enfants Katzenjammers. Il a donc obtenu l'autorisation de faire continuer Parkner, la bande, à son gré. Mais Dirks a été reconnu propriétaire des personnages. C'est lui qui les avait dessinés et créés, donc il a eu le droit de les continuer ailleurs, et c'est ce qu'il a fait. Il a simplement appelé sa bande les The Captain and the Kids, c'est-à-dire le capitaine et les garnements, et les garçons. Et il y a eu deux bandes absolument identiques à quelques infimes des Die Prey qui ont continué pendant des années. Avec cette seule différence que Kner, qui était un artiste honnête et qui ne voulait pas se borner à un pur plagiat, a ajouté quelques personnages supplémentaires, qui n'existent pas dans la bande de Dirks. Il a ajouté des personnages à lui, qui se mêlent aux deux garnements, en particulier l'institutrice Miss Ross, c'est une invention de Kner. Mais dans certaines planches où Miss Ross n'apparaît pas, l'institutrice, on peut se demander si elle est Dirks ou Kner. Alors les spécialistes ont des trucs.
Un autre pionnier de la bande dessinée en Amérique a été Richard Outcault avec son Yellow Kid.
Oui, Richard Outcault a précédé de un an Dirks. C'est-à-dire qu'il faisait une grande image unique à la manière de William Hogarth, où il se passait beaucoup de choses grouillantes, et puis il a trouvé que c'était des scènes de rue. Alors il a trouvé que c'était insuffisant, que le cadre de l'image unique ne lui permettait pas tout exprimer, et il a eu l'idée de fractionner en 8 ou 9 images. Et ensuite, son personnage s'appelait Hogan Salé et était affublé d'une grande chemise. Et un beau jour, Hearst a voulu faire l'expérience de la couleur, c'est-à-dire qu'il a voulu imprimer ses journaux en couleur, ses suppléments du dimanche. Et le jaune n'était pas du tout au point, ça n'allait pas. Et finalement, on a mis au point un nouveau procédé et on a voulu un cobaye. On a pris le garnement Hogan Salé parce qu'il avait une grande chemise blanche et que la surface de la chemise permettait de juger de l'effet de la couleur. Alors ce jaune criard a été tel qu'on l'a conservé, ça a été un des attraits de la bande, et qu'on a appelé le personnage Lion Kid, le gamin jaune. Cole s'est d'ailleurs désintéressé de ce personnage qui était de peu d'intérêt finalement, et a créé un personnage beaucoup plus sophistiqué qui était Buster Brown. Un petit garçon très joli, très pomponné, très bien élevé, vivant dans une famille bourgeoise, et faisant des quantités de farces avec des dehors d'anges, c'est-à-dire qu'il a pris le contre-pied des Katzenjammer Kids. Petit garçon bien élevé, qui est en réalité très sournois et très hypocrite. You can set music back to the caveman days. Oh, a rinky-tinky-tinky. Yes, everybody wants to be a cat. Because a cat's the only cat who knows where it's at. When playing jazz, you always has a welcome mat. Cause everybody thinks a swinging cat. Oh boy, fellas, let's rock the joint. Ha-ha, groove it, cats.
Francis Lacassin, dans votre livre « Pour un 9e art, la bande dessinée », vous signalez que les bandes dessinées au départ étaient comiques. En Amérique, on continue de les appeler « The Comics » ou « The Funnies ».
C'est ça. Elles sont nées dans les suppléments faits de caricatures, et c'est pourquoi elles étaient comiques. Comme en français d'ailleurs, pendant très longtemps, on imaginait que la bande dessinée devait faire rire. En Amérique parce qu'elle était née de la caricature, en France parce qu'elle s'adressait aux enfants et que les enfants n'ont pas droit aux sujets sérieux, aux sujets dramatiques. Et c'est seulement en 1929 que la bande dessinée a connu le plus grand tournant de son histoire. Devant le succès qu'avaient le roman Tarzan et les films Tarzan, le roman Tarzan qui paraissait depuis 1912 en volume mensuel, un éditeur a eu l'idée de l'adapter en bande dessinée et de la fermer à une chaîne de journaux. Et le succès de Tarzan en bande dessinée, donc Tarzan bande dessinée d'aventure dramatique avec du sang, de la volupté et de la mort, si j'ose dire, a eu un succès tel que des bandes dessinées dramatiques de jungle sont apparues. Puis on s'est dit, puisque le roman de jungle et d'aventure marche si bien, pourquoi pas faire du roman policier en bande dessinée? Alors on a créé les détectives dans la bande dessinée. Puis on s'est dit, puisque les héros d'aventure marchent, pourquoi ne pas imaginer un capitaine de la police montée qui fait régner la loi dans le Grand Nord, et ainsi de suite. Il y a une très grande diversification qui s'est produite entre 1935 et 1940.
Est-ce qu'il y a eu des créations importantes depuis ?
Oui, sans doute, bien sûr. La création est continue, mais vous savez, les années 30 ont eu un impact terrible dans la culture de l'humanité. Dans le roman, enfin, par exemple, il y avait un brassage extraordinaire des cultures, un véritable cosmopolitisme. C'est l'époque où les écrivains comme Morand, Sandra ou Macorlan ou même Malraux découvraient que les frontières n'existent pas, ils allaient au loin. Il y avait des échanges culturels, on a découvert le jazz, le film fantastique est apparu, La science-fiction est née vers les années 30, finalement, a trouvé son véritable développement. Et ces années 30 ont eu un très grand intérêt, je vous dis, thématique pour la bande dessinée. C'est l'époque où est né donc Tarzan, où sont nés des héros de bande dessinée comme Flash Gordon, Tintin en France. Il semble toutefois qu'un certain tarissement se soit un peu produit. Il y a peut-être, au cours de ces 30 dernières années, eu moins de grandes découvertes que dans les 30 années qui avaient précédé la période 1940. C'est, je crois, dû à la concurrence d'autres moyens de communication. C'est le cinéma en particulier qui a pris un développement foudroyant, l'apparition de la télévision, etc.
Vous citez des chiffres qui affolent un peu. Mandrake, le magicien, est publié chaque jour, dites-vous, depuis 1926, dans 450 journaux, représentant 90 millions de lecteurs.
Oui, ce chiffre est tout à fait modeste. D'ailleurs, j'ai pris le chiffre de Mandrake parce que c'est une bande que je connais bien et que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteur. Mais Blondie paraît dans 1100 journaux, Peanuts, la bande dont je vous parlais, dans 1500 journaux, c'est des publics fabuleux. Le même jour, la même bande dessinée est lue dans 30, 40 ou 50 pays.
Nous avons eu ensuite Forton, que l'on a surnommé le Jules Berry du dessin. Comment a-t-il inventé ces fameux pieds nickelés ?
Alors Forton est effectivement l'un des rares créateurs de bandes dessinées avant 1930 en France qui est survécu, il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Il y a Forton, il y a Pinchon, l'auteur de Bécassine, et Benjamin Rabier jusqu'en 1930, plus quelques pionniers méconnus du genre de Nadal par exemple, enfin ça nous amènerait trop loin. Louis Forton a réussi dans la bande dessinée, pourquoi ? Parce qu'il n'avait jamais fait les Beaux-Arts. C'est-à-dire que les gens qui avaient fait les Beaux-Arts, qui savaient dessiner, n'avaient absolument pas l'intention de faire de la bande dessinée. Comme il avait appris à dessiner tout seul, il a brisé le carcan de l'art pompier et il a, en quelque sorte, dirigé ses pas vers l'art populaire. Et il a proposé des planches dessinées à divers journaux. J'ai retrouvé sa trace dans Les Jeudis de la Jeunesse, que publiait Taillandier vers 1905, dans un journal pour adultes qui s'appelait L'American Illustré, qui cherchait à proposer aux adultes français un journal fait en bande dessinée. Ça n'a pas marché. Il y avait déjà l'histoire d'un clochard qui s'appelait Anatole Fricotard et qui ressemblait à Ribouledingue, l'un des trois pieds nickelés. Et c'est de sa fréquentation, de ces gens bizarres, car c'était un personnage non conformiste qui avait vécu, était élevé sur les champs de course. Son père était marchand de chevaux, lui-même avait été lad, des garçons d'écurie, qu'il a rencontré cette espèce de faune bizarre, assez amorale, pas immorale, mais amorale, qui lui ont inspiré ces trois personnages des pieds nickelés. On dit que l'un d'entre eux a été inspiré par un clochard, un autre par le chasseur d'un cercle hippie qui s'appelait L'Étrier, et on dit aussi qu'il leur avait donné la tête de ses trois éditeurs, les frères Offenstahl. Enfin, il y a plusieurs légendes. C'est un personnage très désinvolte, et il a créé des personnages à contre-courant de la bande dessinée de l'époque qui était faite pour les enfants sages. C'est-à-dire qu'il y avait le côté éducatif, pédagogique, qui a beaucoup pesé sur la bande dessinée française. Forton est sorti du conformisme habituel qui consistait à montrer des héros nobles ou à la rigueur des garnements, et il a mis en scène des voleurs. Il a rendu sympathique trois voleurs qui faisaient la bamboche, se saoulaient, volaient, escroquaient, et puis comme il fallait bien que le crime soit puni, se retrouvaient en prison de temps en temps. Et Forton avait été très impressionné par la bande dessinée américaine et avait envie d'utiliser des ballons. Et malheureusement, toute la presse française de bande dessinée, presse enfantine, était influencée par la technique de l'image d'Épinal, l'image noble, personnage figé dans une attitude hiérarchique, avec trois lignes de texte dessous. Et ses éditeurs ne voulaient pas le voir utiliser cette technique. Alors de temps en temps, malgré qu'il y ait un texte ou une image, il mettait un ballon qui exprimait une interjection un peu vulgaire, qu'est-ce qu'il a pris, tiens, voilà les flics, etc. Ou des points d'exclamation, d'interrogation. Alors que la bande dessinée américaine, dès l'origine, a systématiquement utilisé le ballon. Et on se demande même si la bande dessinée française aurait utilisé le ballon si un phénomène ne s'était pas produit. C'est qu'en 1925, un journal qui s'appelait Dimanche Illustré, qui était le supplément du dimanche du journal Excelsior, journal très illustré, créé par les frères Lafitte, avait eu l'idée de publier une bande dessinée américaine pour les enfants, qui était publiée dans les pages centrales de son journal. Et cette bande, c'était Bico, dont le nom était en réalité Periwinkle, ce qui veut dire bigorneau en américain, et qu'on a naturalisé français, si bien que ses lecteurs, pendant des années, ont cru qu'il était français. Sa sœur Suzy s'appelait Winnie en américain. Et bien entendu, cette bande américaine utilisait entièrement la technique des ballons, texte à l'intérieur de l'image, dans des réserves blanches s'échappant de la bouche des personnages. Alors lorsqu'on a voulu mettre en face de Bico une bande dessinée française, cela aurait juré, et on a demandé au jeune Alain Saint-Augan, de faire une bande qui utilise la même technique. Alain Saint-Augard a créé les personnages de Zig et Puce le 3 mai 1925. Et c'est seulement en 1930 que la presse quotidienne française a publié des bandes dessinées. Une bande dessinée timidement par journal, ou une ou deux, très timidement, Mickey dans Le Petit Parisien, Félix le Chat dans L'Intransigeant, Le Professeur Nimbus, première bande dessinée française quotidienne dans le journal. Alors que depuis 1912 à peu près, les journaux américains avaient tous des bandes dessinées quotidiennes.
Shanghai, Hong Kong, Ik Fu Yang. Fortune cookie always wrong. That's a hot one. How about you and me, Duchess?
Yes, let's swing it, Thomas. Groovy, Mama, groovy.
Blow it, small fry. Blow it.
Boy, he blew it.
But he was a close.
Francis Lacassin, je crois qu'il faudrait qu'on consacre une émission entière à Bécassine.
Alors moi, je veux bien, quand vous voulez, c'est un personnage tellement important, Bécassine.
Dans votre livre Pour un 9e art, la bande dessinée, vous avez tenté de comparer les aventures de Bécassine à La Recherche du Temps Perdu de Marcel Proust. Et vous dites même que Bécassine, c'est un peu le temps perdu raconté par Françoise. Françoise étant incarnée par Bécassine.
Oui, Bécassine est la narratrice, et Françoise qui prend la plume au lieu du narrateur. Lorsqu'une bande dessinée paraît pendant 48 ans, comme c'est le cas de Bécassine, elle est le miroir d'une actualité, car toute littérature populaire, et la bande dessinée c'est de la littérature à l'estampe, comme aurait dit Topfer, ou comme aurait dit Christophe, c'est-à-dire aujourd'hui nous dirons de la littérature d'expression graphique, toute littérature populaire, graphique ou écrite ou orale, a tendance à s'inspirer de faits actuels, c'est-à-dire à rester en prise sur l'actualité pour permettre l'identification du lecteur. Donc inconsciemment, la bande dessinée devient un miroir de l'actualité. Elle nous renseigne sur les modes en particulier, sur les usages, sur le langage. Car la bande dessinée emploie un langage quotidien, au contraire du roman qui emploie un langage tout à fait faux, conventionnel souvent, sauf Céline bien sûr. Mais jusqu'à Céline, le roman français employait un langage de douairière et de marquise. Et par conséquent, cette actualité reflétée par la bande dessinée évoluant, on peut en quelque sorte reconstituer son évolution en relisant la bande dessinée qu'il a enregistrée. Et dans le cas de Bécassine, c'est assez intéressant parce que, comme dans Le Temps Perdu, c'est la description de la même classe sociale, c'est-à-dire la grande bourgeoisie du Faubourg Saint-Germain, à la transformation, l'altération, l'affaissement, l'effilochement de laquelle nous assistons, racontée par Bécassine au lieu du narrateur. Dans Le Temps Perdu, Proust montre la décadence du clan Guermantes au profit du clan Verdurin, la modification, les renversements de fortune. Cela existe aussi chez Bécassine. La marquise de Grantaire, qui est l'idole de Bécassine, comme la duchesse de Guermantes est l'idole du narrateur, prend de moins en moins d'importance, elle disparaît. On assiste en quelque sorte à la naissance de la fortune mobilière. On voit que la marquise est ruinée. Ses châteaux tombent en ruine, elle ne peut plus les entretenir, des Rastaquer et des métèques les achètent. Vous voyez, c'est déjà l'évolution de la fortune mobilière, les gens qui ont fait fortune dans le commerce, dans les sociétés par action et qui éliminent la grande bourgeoisie. Il y a également les grèves qui apparaissent. On voit des grèves de chemin de fer qui apparaissent dans Bécassine. La marquise est beaucoup moins respectée qu'autrefois. Les ouvriers qui viennent chez elle pour réparer le téléphone, déjà le téléphone ne marchait pas, vous voyez, déjà, vers 1925. Non plus le même respect qu'autrefois, ils ont la casquette de travers, ils ont le mégot au coin des lèvres, ils sentent le vin, et ils protestent parce que les pourboires ne sont pas assez bons. C'est que déjà, la naissance du prolétariat, l'espèce d'affirmation de la classe prolétarienne qui ne vénère plus et qui n'adule plus la bourgeoisie. Alors vous avez par exemple la grève des chemins de fer qui est due à des consignes syndicales. Et puis, ce personnage de la marquise devenait de moins en moins dans le vent au fur et à mesure que la prolétarisation du public se poursuivait. C'est-à-dire que la semaine de Suzette qui abritait Bécassine était destinée à la grande bourgeoisie et celle-ci s'effilochant, la direction cherchait à attirer une petite bourgeoisie ou une clientèle presque prolétarienne. Alors les histoires de marquises, évidemment, il fallait les démocratiser. Alors on ne voit plus la marquise utilisant ses châteaux, ça faisait mauvais effet. Et puis d'ailleurs, elle les avait perdus parce qu'elle était ruinée. Alors on la voit alors à l'hôtel, c'est la naissance des grands hôtels, c'est où l'on part à Deauville. Et alors il y a ce côté proustien, il y a Balbec, c'est Sable fin sur mer dans Bécassine. Il y a ces jeux d'enfants sur la plage avec la petite fille de la marquise qui est Loulotte, qui rencontre des petits garçons qui pourraient être Marcel Proust, avec des tas d'histoires charmantes de petits garçons et de petites filles qui vont aux Tuileries ensemble. Et puis, le déclin de la marquise s'accentuant, on ne va plus dans les grands hôtels parce que les grands hôtels sont dévorés par les exigences du personnel qu'il faut payer trop cher et qui exigent des congés payés. Ensuite, les congés payés qui se déplacent ne peuvent pas occuper les grands hôtels qui sont trop élevés pour eux. Et alors, on voit déjà les promotions immobilières. On voit les grands hôtels qui ferment leurs portes. Et à la place, on fait des lotissements de petites villas, déjà, vers 1930. Et alors, si bien qu'on voit la marquise louer une petite villa, carrément. Et puis alors, à la fin de sa chute, vers les années 35, elle va dans une pension de famille. C'est encore plus, on la voit même participer à la cuisson d'un repas parce qu'il n'y a pas de personnel. On ne trouve pas de personnel. Pendant les vacances, les gens ne veulent pas travailler, les ouvriers ne veulent plus travailler. Ils sont en congé payé, ils veulent être servis à leur tour. Alors la marquise aide les braves dames qui tiennent des pensions de famille à éplucher des légumes. On retrouve d'ailleurs également les principaux personnages de Proust. Brichot est représenté par M. Proéminent, le grand savant distrait et très érudit qui entraîne Bécassine autour du monde, absolument. Et qui, de même que Brichot exalte au patriotisme pendant la guerre de 14 en écrivant des articles dans le Figaro, pendant la guerre de 39-45, M. Proéminent fait de la résistance. Il dirige un réseau, son nom de corps, des grands-pères. Il fallait y penser. Et Bécassine porte des lettres très dangereuses. Et ils écoutent la radio de Londres en se méfiant des voisins, en mettant un calendrier pour étouffer le son. Enfin, c'est vraiment tout l'éthique qu'utilisaient les gens sous l'occupation pour écouter la radio de Londres. En 1950, la marquise de Grantaire autorise sa petite fille à faire du cinéma.
Vous parliez de Bécassine dans la guerre de 39-40. La plupart des personnages de bande dessinée interviennent dans les grandes occasions et particulièrement dans les conflits mondiaux. Ce fut le cas des Pieds-Niclés.
Les personnages de bande dessinée, en quelque sorte, reflètent sont le produit d'un certain état social, d'une certaine structure sociale et traduisent ses états d'âme, ses angoisses, ses rêves. Ce sont des modèles, en quelque sorte, des héros à donner un exemple. Donc, fatalement, ils doivent être du bon côté et combattre pour la démocratie. À toutes les époques et dans tous les pays, les personnages de bande dessinée ont pris la défense du pays, ont déclaré la guerre à l'ennemi, comme toute la nation entière. Alors, ça donnait parfois des résultats burlesques, touchants, naïfs, gentils, dans le cas de Bécassine.
Et Flash Gordon est même revenu d'une planète inconnue.
Oh, Flash Gordon, c'est vraiment une histoire très émouvante. Il poursuivait des histoires sur la planète Mongo, amoureuses et mélodramatiques, très compliquées. Et lorsque la guerre a éclaté sur Terre, une guerre mondiale, où les adversaires n'étaient pas nommément désignés, mais on savait très bien que c'était la démocratie contre les nazis, il a participé au bon côté. Il est descendu de la planète Mongo, s'est engagé à participer à la guerre, et quand elle a été terminée, il est reparti sur la planète Mongo, bien sûr, où il est encore.
Quelles sont les relations des créateurs de bandes dessinées avec leurs lecteurs ?
Eh bien, aussi étrange que cela puisse paraître, ils n'avaient pas de relation directe jusqu'à ce que notre petit groupe du CELEG intervienne.
Mais les lecteurs intervenaient dans le déroulement des histoires ?
Oui, alors certains lecteurs intervenaient, soit des lecteurs privilégiés. Par exemple, vous avez le président Wilson qui était un grand lecteur de Crazy Cat. Vous avez également le président Eisenhower qui, lorsque la bande dessinée Terry et les pirates s'est partie en guerre, c'était une bande dont le héros était un adolescent, Terry, qui avait des aventures en Extrême-Orient, en Chine, etc. Et lorsque la guerre a éclaté, il s'est engagé et il a eu toutes sortes de combats. Il était aviateur et ses hommes occupaient une île qu'ils ont dû céder aux Japonais. Alors vraiment, le président Eisenhower s'est adressé au créateur de la bande en lui disant « ça n'est pas bien, vous démoralisez nos soldats qui lisent cette bande, il faut absolument qu'ils reprennent cette île ». On a vu le président Kennedy, peu avant sa mort, qui a demandé au créateur de Superman de faire à dire à Superman que tout le monde ne peut pas avoir les pouvoirs surnaturels de Superman, mais qu'on peut développer ses pouvoirs physiques naturels en faisant de la culture physique, et qu'il faut faire de la culture physique. Par contre, il y avait un phénomène de masse. Lorsque, par exemple, Annie l'orpheline perdait son unique compagnon, son chien, qui en français s'appelait Zéro. Alors là, violence indignée, et des milliers de lecteurs écrivaient en disant « c'est un scandale, il faut qu'elle retrouve son chien ». Alors, à ce moment-là, on obéissait. C'est un phénomène unique où le lecteur individuel intervient rarement, mais l'émanation collective du public détermine la création d'une bande de l'infléchissement d'un personnage, à un point tel que le personnage dépasse l'auteur et devient un mythe qui n'ose plus le modifier.
En dehors des États-Unis et de la France, quels pays produisent des bandes dessinées ?
Bah, pratiquement tous les pays ont une production de bande dessinée. J'ai même reçu à l'occasion de mes cours des lettres d'un Français établi à l'Indonésie qui m'a parlé d'une énorme et très intéressante production indonésienne. Malheureusement, on ne les connaît pas. Tous les pays ont une production nationale, mais en général, ils sont écrasés évidemment par l'efficacité de la concurrence américaine, par le fait que la bande dessinée américaine a acquis une supériorité de diffusion vraiment extraordinaire, et également une supériorité dans la thématique, dans la création. Il y a si longtemps qu'elle existe, et il y a tellement de grands artistes en Amérique, tellement de créateurs, l'Amérique par exemple ayant 4 fois ou 5 fois plus d'habitants que la France, que souvent la production américaine, et c'est peut-être son grand défaut, occulte et paralyse les productions nationales. Mais tout pays a sa production nationale. Malheureusement, elle franchit très rarement les limites de ce pays. Mais si vous voulez, pour parler de bandes dessinées qui sont sorties des limites de leur pays, en France, des bandes comme Tintin, comme Astérix, comme Zig et Puce ont franchi les frontières de la France. Rarement au-delà de l'Europe, quand même. Je crois que Tintin et Astérix sont une exception. Il y a l'Italie aussi qui a eu une production très intéressante entre 1930 et 1940, à l'époque où la production française était complètement endormie et annihilée par l'invasion américaine. L'Italie a eu une production très intéressante, a produit des personnages, des bandes dessinées fantastiques comme le magicien de la forêt morte, comme Saturne contre la Terre, une très grande bande de science-fiction méconnue qu'on va redécouvrir. On va la redécouvrir, c'est la grande bande surréalisante des années 30. En Allemagne aussi, il y a une bande dessinée. Il y en a même dans le monde communiste. La bande dessinée paraît un produit bourgeois frivole. Pas du tout. La Chine a une énorme production de bande dessinée. Très engagée, bien sûr, mais très, très abondante et très existante, très vivante.
Francis Lacassin, quel est l'avenir de la bande dessinée ?
Écoutez, je crois que la bande dessinée se développe de plus en plus, qu'elle a absolument vaincu tous les préjugés qui étaient contre elle, qu'on s'aperçoit, en tout cas j'ai essayé de le dire moi dans mon propre livre et dans les cours que je donne à la Sorbonne, elle a acquis une maturité, une certaine organisation esthétique qui fait qu'elle est véritablement, plus qu'un moyen d'expression, un art. Quant à sa destinée, à ses débouchés, si vous voulez que nous parlions des débouchés, je crois qu'ils deviendront de plus en plus grands, mais vont se diversifier. C'était un produit un peu informe, qui va faire comme le cinéma. Demain, il y a un cinéma pour les enfants, un cinéma pour les adultes, et qu'il y a des tendances dans le cinéma. Nous allons assister à la naissance d'une bande dessinée pour intellectuels, à une bande dessinée pour enfants, à une bande dessinée pour femmes, à une bande dessinée pour hommes, j'ai l'impression. Et je crois qu'elle... elle va en quelque sorte récupérer, si elle ne l'a déjà fait d'ailleurs, le public du roman traditionnel, qui pour moi est mort, c'est un cadavre qui se traîne. Le roman dans l'avenir n'a une chance de survie que s'il est en totale rupture avec la réalité, c'est-à-dire s'il participe de l'imaginaire le plus excessif, le plus extrême, comme la science-fiction, le fantastique ou le roman policier irréaliste, qui est tout à fait éloigné du fait divers traditionnel. Ou alors le roman d'espionnage, qui est en quelque sorte, si vous voulez, le roman d'aventure du monde moderne. Mais le roman est mort. C'est la bande dessinée qui va probablement prendre la place du roman dans un monde qui est de plus en plus voué à la civilisation de l'image. Quelle horrible prophétie, diront les défenseurs de la culture écrite, et pourtant.
Les Sentiers de l'Humour, la bande dessinée, Mina et André Guillois recevaient Francis Lacassin le 22 mars 1972 sur France Culture. Vous pourrez réécouter cette émission sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France.